L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Ici, c'est la stupeur. Que l'on ait enlevé un mort paraît tout à fait incroyable, mais que ce mort ait été Charlie Chaplin, enlevé dans ce petit cimetière, tout tranquille, des bords du lac Léman, ça paraît tout à fait invraisemblable.
Bonsoir. Charlie Chaplin lui-même aurait pu imaginer cette histoire criminelle que nous avons choisi de vous raconter ce soir. Il aurait pu tout simplement l'appeler Charlot et les Fossoyeurs. Il y aurait tenu la vedette, mais cette fois à la place du mort. Car c'est bien ce qui s'est passé dans cette affaire. Au début du mois de mars 1978, dans un petit cimetière suisse, proche du lac Léman, le vol de la dépouille de Charlie Chaplin, l'acteur des Lumières de la ville et des temps modernes, mort quelques semaines auparavant. L'affaire va bien sûr frapper de stupeur les imaginations. Tous les scénarios possibles et imaginables vont être évoqués. Pendant 3 mois, la police suisse va courir après un cercueil disparu dans la nature et dans lequel repose un géant du cinéma. La piste criminelle va rapidement s'avérer la bonne et dévoiler une étonnante équipe et une drôle d'équipée. C'est ce vol, le vol du cercueil de Charlot, sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure du crime avec nos invités, parmi lesquels je tiens à le signaler, le fils de Charlie Chaplin, Eugène Chaplin, qui nous racontera l'émotion vécue alors dans sa famille.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le vol du cercueil de Charlie Chaplin en Suisse, à la fin de l'hiver 78, dans un cimetière des plus tranquilles, là où il avait été enterré seulement 3 mois auparavant. Dans la nuit du 1er au 2 mars 1978, deux silhouettes arpentent le petit cimetière de Corsier-sur-Vevey, pas très loin de Lausanne, sur les bords du lac Léman. Il est minuit passé, l'endroit est des plus calmes, une seule maison alentour a encore sa lumière allumée. Les deux rôdeurs, un tout petit bonhomme et une armoire à glace, se sont arrêtés devant une pierre toute simple portant l'inscription Charles Chaplin, 1889-1977. Il commence alors à creuser en essayant de faire le moins de bruit possible. Peu à peu, le trou s'agrandit et laisse entrevoir le cercueil de bois verni. L'ensemble pèse environ 200 kilos. Il est tissé quasiment à la verticale à l'aide d'une corde. Le plus costaud des fossoyeurs cambrioleurs fait tout le travail. Il va falloir presque 2 heures pour sortir la dépouille. Pas question à présent de porter le cercueil à bout de bras. Il est tiré sur l'herbe fraîche sur plusieurs mètres, puis embarqué à bord d'une voiture, un vieux break stationné dans l'allée centrale du cimetière. Le véhicule démarre tranquillement et prend la direction de Noville, dans la campagne suisse. Personne n'a rien vu, seul un voisin dira avoir entendu quelques coups sourds. Mais comment imaginer qu'on puisse voler un mort dans un cimetière ? Le jeudi 2 mars, vers 14h, le fossoyeur du cimetière de Corsier-sur-Vevey découvre le trou béant et l'absence du cercueil de Charles Chaplin. La terre a été fraîchement remuée, la police du canton de Vaud est aussitôt prévenue de cet incroyable vol de sépulture. Jean-Daniel Tantoré, premier juge informateur de l'arrondissement de Vevey-Lavaux, l'équivalent de notre juge d'instruction, est désigné pour mener les investigations. Charlie Chaplin est décédé dans son sommeil d'un AVC au matin du 25 décembre 1977, il avait 88 ans. Il vivait depuis des années dans une propriété voisine, le manoir de Ban. Il avait choisi d'être enterré en Suisse car il trouvait l'endroit tranquille. C'est raté. La nouvelle du vol de son cercueil fait aussitôt le tour du monde. Le journal suisse 24 heures titre « Pourquoi ont-ils volé Charlot ?» Pour le moment, le vol du cercueil de Charlot est une énigme. Il va falloir attendre quelques jours pour que ce scénario, qui hésite entre la très mauvaise plaisanterie et une sordide mise en scène, commence à s'éclaircir. Le juge Jean-Daniel Tantoré s'est longuement rendu au cimetière, accompagné du meilleur inspecteur de la police vaudoise, Jean Paco. Les deux hommes sont perplexes face à cette scène de crime, ce trou béant dont la photo s'affiche dans les journaux du monde entier. Les cambrioleurs n'ont rien laissé derrière eux, aucune empreinte, ils avaient sûrement des gants. L'ADN à cette époque n'existe pas. Des traces de pneus sont relevées, mais il s'agit en fait de celles du fourgon du jardinier venu travailler sur une tombe. Impossible de savoir où est passé le cercueil de Charlot. Il est peut-être déjà très loin, en route vers l'Angleterre, pays natal de Chaplin, où des admirateurs regrettaient qu'il n'ait pas été enterré. L'enquête est dans le flou jusqu'à ce que le téléphone sonne dans la propriété des Chaplin, le manoir de Ban. Ce soir-là, c'est Una, la dernière épouse de l'acteur, qui décroche. Une voix sourde, celle d'un homme qui parle avec un indéfinissable accent étranger. est au bout du fil. Cet interlocuteur se présente sous le nom de Rocha. Il dit détenir le cercueil et demande une rançon de 1 million de francs suisses, l'équivalent aujourd'hui de 900 000 euros. La veuve refuse illico ce marché et raccroche. Dans les jours qui suivent, le fameux Rocha se manifeste à nouveau. Il se fait insistant et propose à nouveau son sinistre troc, le cercueil contre des liasses de billets. Cette fois, la police est près du téléphone et enregistre les conversations. Una Chaplin n'a aucune envie de céder à ce chantage déplacé. Elle y est encouragée par le juge. Il ne se passe désormais pas un jour sans que le ravisseur appelle la propriété des Chaplin. Pas de téléphone portable à l'époque, le dénommé Rocha appelle depuis des cabines publiques. On le sait, car on entend parfois le bruit des pièces glisser dans l'appareil. Il arrive ainsi que la communication coupe quand l'interlocuteur est à court de monnaie. Les exigences financières sont systématiquement revues à la baisse. Le juge Tantoré va alors avoir l'idée de laisser pourrir la situation et de laisser doucement le piège se refermer. Après presque 3 mois de rendez-vous téléphonique, le juge et les enquêteurs vont passer à l'action. De façon astucieuse, ils vont mettre en place une souricière géante. Les mystérieux ravisseurs cherchent à tout prix à obtenir de l'argent. Pour prouver qu'ils détiennent bien le cercueil, ils ont fait parvenir des photos à la famille. On y voit le cercueil intact, posé au milieu des herbes. Au fil des semaines, les voleurs ont toutefois le sentiment de perdre leur temps. La famille ne veut pas céder, de quoi les irriter. Sur les écoutes, la tension est de plus en plus palpable. Le dénommé Rocha menace désormais de s'en prendre aux enfants du couple Chaplin si la rançon n'est pas versée. Le ton change et l'inquiétude monte. Una Chaplin est fatiguée par cette affaire qui commence à sérieusement la déprimer. C'est l'une des filles de l'acteur, Géraldine Chaplin, qui va alors devenir l'interlocutrice des malfrats. Nouvelle série de demandes, la police demande alors à Géraldine Chaplin de faire mine d'accepter la rançon proposée par Rocha, réduite alors à 150 000 francs suisses, presque autant en euros. Et surtout, de fixer un nouveau rendez-vous téléphonique avec le ravisseur. Il est prévu donc qu'il rappelle au matin du 16 mai 1977 à 9h30, précise. La souricière se met en place. Ce 16 mai, au matin, le juge a demandé une présence policière devant chacune des 240 cabines téléphoniques du canton, des hommes en civil. Les enquêteurs parient que l'une de ces cabines va être fatalement utilisée. À 9h30, tapante, un homme compose effectivement le numéro de la famille Chaplin. Il a tout juste le temps d'engager la conversation avec Géraldine, qu'il est aussitôt ceinturé et embarqué. Cet homme s'appelle Roman Joseph Wardas. C'est lui, Rocha. Il a 24 ans, réfugié polonais, installé en Suisse depuis 4 ans, mécanicien au chômage. Il avait assisté devant sa télé aux obsèques de Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey. Il a eu l'idée de voler son cercueil après avoir lu dans un journal une histoire similaire qui s'était déroulée en Italie. Il a mis dans la combine un gros bras, le costaud du cimetière, un réfugié bulgare du nom de Gancho Ganev. Les deux hommes sont inculpés pour crime manqué d'extorsion et atteinte à la paix des morts, selon les termes de la loi suisse. Reste désormais à retrouver le cercueil à condition que les voleurs retrouvent la mémoire. Les enquêteurs questionnent Roman Joseph Wardas, le cerveau de l'opération, et Gancho Ganev, le culturiste qui a soulevé le cercueil. Où est la dépouille ? Wardas indique qu'elle se trouve près du village de Noville, à une vingtaine de kilomètres du cimetière. Le cercueil, dit-il, est enterré dans un champ de maïs. Le juge décide d'aller sur place en pleine nuit, histoire d'éviter journalistes et curieux. Arrivé dans un champ, juste en face du Léman, un lieu où renards et oiseaux migrateurs abondent, le duo a bien du mal à retrouver la sépulture. Policiers et malfrats tournent en rond à la lumière des lampes torches. On utilise des détecteurs de métaux. Au bout d'une heure, le cercueil est enfin localisé. Il n'est pas enterré profondément, il est aussitôt remonté à la surface. Dans l'obscurité, le juge Daniel Tantoré demande qu'on soulève le couvercle. C'est bien Charlie Chaplin qui est à l'intérieur, parfaitement reconnaissable. Quelques jours plus tard, le cercueil sera remis à sa place à Corsica. Le Vevey, placé cette fois sous une dalle de béton pour éviter toute mauvaise surprise. Le 11 décembre 1978. Roman Joseph Wardas et Gantcho Ganev comparaissent devant le tribunal correctionnel de Vevey. Leur seul mobile était l'argent. Les deux apprentis maîtres chanteurs et fossoyeurs écopent respectivement de 4 ans et demi de prison pour le premier, 18 mois avec sursis pour le second, simple manutentionnaire. En ce lieu paisible à reposer en paix Charlie Chaplin, mars 1978, est-il inscrit sur une petite croix au milieu d'un champ de maïs ?